Bonjour frère et sœur. C'est curieux, hein, tout ce lien qu'il y a dans les envies des uns et des autres de transmettre quelque chose. Hein, tout d'un coup, le salut pour tous, et il nous est dit, le ciel est ouvert à tout être humain. Pas un seul être humain ne peut s'imaginer être plus petit qu'un autre, ni d'être plus grand qu'un autre. Et notre problème à nous, et mon problème à moi, c'est de toujours regarder avec égalité les gens. L'égalité non pas française dans le sens tu dois être égal à moi, mais dans le sens où nous avons une relation d'égalité avec ma femme, avec mes enfants, avec le grand, avec le petit, enfin ce qu'on estime avec le grand et le petit. Et Dieu veut qu'il y ait un système d'égalité qui se fasse et qui soit spirituel, qui ne soit pas mécanique, fonctionnel, comme on le voit dans le désir français d'égalité. Il a été dit aussi plein de choses sur la grâce. Il a été aussi dit plein de choses sur le fait que la grâce n'est pas suffisante, excusez-moi ce que je dis, n'est pas suffisante s'il n'y a pas le Saint-Esprit derrière. Si on vous fait grâce et que vous êtes un repris de justice, un vétéré, on peut vous faire grâce. Le problème, c'est que la personne en question s'apercevra qu'elle n'a pas d'énergie ou de force nécessaire pour honorer cette grâce, pour dire, tiens, quand même, le président de la République m'a fait grâce, mais j'arrive pas, je continue, ça y est, je vais me retrouver tenté parce qu'à un moment donné, des événements, il y a des choses qui vont m'arriver, et je vais retomber. Et j'avais à cœur de vous parler de cette articulation entre la grâce et la force. Alors, je dis la force parce que ça peut faire penser à des films à grand spectacle, hein, où quelqu'un reçoit la force, hein, que la force soit avec toi, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais et qui est du fictif. Mais en fait, la réalité de Dieu, c'est qu'il nous donne une force qui n'est pas cinématographique. Hein, c'est bien une force qu'il nous donne. Et bien sûr, je n'ai pas la prétention de vous dire quoi que ce soit, que vous ne sachiez, mais c'est toujours bon que nous entretenions de ça. C'est que nous avons la grâce et nous avons aussi quelque chose. Nous avons la servo-commande, si vous voulez. Nous avons le gros camion. Et alors, tout d'un coup, la servo-commande, elle ne fonctionne pas. Et le gars, il est beau être costaud, mais il tire sur son camion et puis il n'arrive pas à tourner dans le virage. Et puis le camion, c'est moi. Enfin, je veux dire, et moi, là-dedans, il y a le conducteur, bon, hein, et puis il a du mal à tourner dans les virages. Hein. Mais s'il y a la servo-commande, s'il y a la force de Dieu qui nous est donnée, alors on arrivera à tourner. Mais si on ne laisse pas cette force fonctionner, alors on n'arrivera pas à tourner. Chers frères et sœurs, vous vous souvenez probablement des messages qui ont été donnés par et chaque frère qui donne ses messages dans l'assemblée et vous avez certainement constaté qu'il y a souvent des liens, parfois ténus, mais quelquefois très forts, mais toujours un lien dans tous ces messages. Et c'est une preuve à mon sens qu'il y a la présence du Saint-Esprit dans une communauté, c'est ça. Un fil directeur. Un fil directeur de la révélation de Dieu, que Dieu veut nous donner par sa parole. Et sa parole, on le sait, c'est la vérité qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Et c'est aussi sa parole qui est la Bible et qui nous a été transmise miraculeusement au cours des siècles, miraculeusement, au cours des siècles passés. Jésus-Christ, Dieu le Fils, le reflet de sa gloire, de la gloire de Dieu, le reflet, l'empreinte de sa personne, comme s'il y avait un cachet qui a été mis sur de la terre glaise et qui fait que c'est l'empreinte de sa personne. Il soutient cet individu, c'est Jésus, Dieu le Fils. Il soutient toute chose par la puissance de sa parole, par la puissance de sa parole, par sa parole toute puissante, mais la puissance de sa parole. Il a fait la purification, il n'a pas fait que ça, il a fait la purification des péchés, nous est-il dit, et il règne maintenant à la droite de la majesté divine. C'est Hébreux chapitre 1, hein, vous avez certainement reconnu. Il règne dans les cieux à la droite de la majesté divine et il y a une puissance qui émane de lui et qui est diffusée, je ne sais pas comment, mais qui est diffusée dans ce monde. Alors souvenez-vous justement qu'à un moment donné, on a eu un message d'un frère et qui m'a suscité chez moi le désir de vous parler maintenant de ce que j'ai envie de vous parler. Hein. C'était un message qui a été récemment donné, hein, et j'ai eu envie de prolonger ce message par quelque chose qui me tient à cœur. Ce message, c'était celui d'Emmanuel Moraviec, hein, qui nous avait parlé de son jardin, souvenez, et de la surprise que nous avons de constater que pour faire pousser des bonnes plantes dans le jardin, c'est toujours difficile. Et que par contre, pour les mauvaises herbes et les plantes envahissantes, pissenlit, lierre, liseron, enfin, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Emmanuel faisait le parallèle avec notre vie spirituelle, où nous avons aussi les mêmes situations. J'ai plus facilement tombé, je suis plus facilement tombé dans des travers spirituels, tant est que les travers soient spirituels, mais c'est plus facile de tomber dans des travers que de grandir dans la foi et dans la maturité. En nous, naturellement, il n'y a pas d'équivalence entre deux forces qu'il y a en nous. Et il nous avait expliqué que patiemment et régulièrement, par des petites touches successives, il nous faut cultiver notre jardin. Hein? Adam et Ève avaient un jardin à cultiver, c'était le jardin, et c'est aussi le jardin de leur cœur. Et puis, vous connaissez la suite. Et en nous, naturellement, il n'y a pas d'équivalence entre la force du péché et du mal, et la force de la vertu et de la foi. On a l'impression que cette force du péché et du mal l'emporte toujours sur la force de la foi et de la vertu. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Hein. Pour vous, ça marche peut-être comme sur des roulettes, mais pour moi, en tout cas, c'est toujours l'impression que c'est un peu comme ça, quoi. Hein. Et je voudrais l'illustrer par un petit schéma, je ne l'ai pas dessiné, mais vous avez assez d'imagination pour le dessiner comme ça. Hein. Imaginez un panier de pommes saines, hein, des pommes parfaites, très belles. Hein. Et puis un panier de pommes pourries. Vous les avez là, ils sont là. Toc. Et puis, vous allez faire une petite opération, une expérience scientifique. Vous allez prendre une pomme saine, vous allez mettre dans le panier de pommes pourries, puis dans celui de pommes pourries, vous allez mettre dans le panier de pommes saines. Puis vous allez laisser fonctionner votre expérience pendant un mois. Je pense que vous avez deviné ce qui va se passer. Naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les pommes seront pourries. Or, nous sommes quelquefois dans l'illusion de croire que, puisque nous sommes français et que nous sommes pour la parité, pour tout ce qu'il faut, il y aura 50% de pommes pourries, 50% de pommes saines, et que là, il y aura 50% de pommes pourries et 50% de pommes saines. C'est faux. C'est faux. Toutes les pommes seront foutues. Donc, vous comprenez, il n'y a pas d'équivalence entre ces deux principes. Le principe de la désorganisation, je vais sortir un gros mot pour les scientifiques, le principe du théorème de Jean Perrin, c'est-à-dire tout se dégrade, tout dégrade. Donc, je vieillis, vous vieillissez, tout se dégrade. Notre corps, il se dégrade, on le sait. Et puis, les pommes aussi. Voilà, c'est bien dommage. Il n'y a pas d'équivalence. Le pourri va forcément gagner. Les pommes saines vont disparaître. Bien sûr, le message d'Emmanuel disait aussi que Dieu est là. Et que son Saint-Esprit est là. Et c'est alors que nous comprenons que les choses ont changé. Les choses ont vraiment, réellement changé. Ce n'est pas une histoire de se dire quoi que ce soit. Il y a un principe dans la création nouveau qui est arrivé. Cette histoire de pommes saines et de pommes pourries, qui est quand même une expérience récurrente que nous pouvons faire pendant des centaines de fois, et ça se passera toujours comme ça, mais au niveau spirituel, c'est pas la même chose. Pour nous, c'est pas la même chose. C'est alors que nous comprenons que les choses ont donc changé. Le schéma des pommes saines et des pommes pourries, c'est pour le monde, dans le domaine spirituel, je veux dire. n'y a aucun espoir pour le monde de, avec des choses vertueuses du monde, hein, parce qu'il y a quand même des choses bien dans le monde, que ces choses vertueuses vont forcément gagner contre les choses qui ne sont pas vertueuses. Ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas possible. On le sait. Mais ce schéma pour l'Église n'est pas le bon. Et je veux dire que dans l'Église, il y a un autre principe, et un principe merveilleux, qui peut se résumer ainsi, c'est, si vous voulez, le titre du message, c'est « La résurrection est en marche ». Vous voyez, pour prendre un peu le pendant de « La révolution est en marche ». Vous vous souvenez, les gens? Vous voyez à peu près, je ne le fais pas bien, mais il y a même des statues en béton qu'on trouve dans certains pays qui n'ont pas réussi leur révolution. Et on voyait un gars avec des marteaux, un truc comme ça, et avec un point levé vers le ciel. Et la révolution est en marche, c'est ce que nous pensons en tant que Français encore aujourd'hui, en pensant que la révolution française était une bénédiction. Hein, j'ose le dire, il y a des gens qui pensent que c'est une bénédiction avec le flot de sang qui a été déversé gratuitement, entre guillemets gratuitement, en France. Il y a de quoi encore en pleurer aujourd'hui. Terrible. Évidemment, il n'y a pas qu'en France qu'il y a eu la révolution. Et certains veulent même la transposer dans d'autres pays où la culture n'arrive pas à digérer la révolution. Les printemps de toutes sortes donnent plutôt tendance à produire des hivers que des étés. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire. La résurrection en marche. Alors, j'aurais eu envie de vous parler de Nombre chapitre 16, mais ça c'est pour vous dans votre intimité. Lisez Nombre chapitre 16. Il y a un homme qui veut faire la révolution, plusieurs qui veulent faire la révolution dans le peuple d'Israël. Ils font la révolution parce qu'ils ont tous les droits. Droit d'aînesse, droit de compétence, tous les droits. Et ils estiment en tant qu'êtres humains qu'ils ont le droit de dire à Dieu que Dieu se trompe et que eux, ils vont faire la révolution comme il faut. Parce qu'il y a des gens très compétents dans le pays. Il y a des gens qui sont très très forts. Alors vous, Moïse et Aaron, on en a marre de vous. Vous prétendez être les supérieurs et vous oubliez les compétences de tout le monde. Et cette révolte est tellement terrible que Dieu devient terrible. Et que Dieu répond à cette révolte. Et il y a à peu près 15 000 personnes qui meurent. Du jour, enfin même pas du jour au lendemain, mais d'une heure à l'autre, parce que Dieu est vraiment irrité à un point qu'il va détruire cette révolution. Nous, on n'est pas dans la révolution, on est dans la résurrection. La résurrection est en marche. Et ça, je veux dire, je voudrais essayer de vous transmettre ça. Je sais pas, j'ai peut-être du mal, mais la grâce de Dieu inclut la révolution. C'est une révolution, mais la grâce de Dieu inclut la résurrection. Hein? Je vais vous donner un exemple. Dans Romains chapitre 7, au verset 14, il nous est dit « La loi, ça vient de l'Esprit de Dieu ». Romains 7, 14, vous voyez ce qu'il nous est dit. « La loi vient de l'Esprit de Dieu ». Romains 7, 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. » La loi est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle vient de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on pourrait imaginer que puisque c'est l'Ancien Testament, que la loi est une préfiguration de ce qu'il faudrait, qu'elle est quelque chose de pas entièrement complet, d'ailleurs c'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, la loi amène à la grâce, et que certains ont cru qu'en accomplissant la loi, ils arriveraient à la perfection. Mais elle ne peut pas amener à la perfection. Mais elle est spirituelle quand même. C'est-à-dire que le principe dans la loi est un principe qui vient de Dieu, et cet esprit qu'on trouve dans le texte de loi de la Bible amène l'individu à se poser des questions spirituelles. Et c'est ce qu'il nous est dit dans Romains au chapitre 7, verset 14. Il nous est dit... Mais moi, je suis charnel. Enfin, je suis charnel. Je suis vendu au péché. Vous voyez, reprenez vos pommes saines et vos pommes pourries. Vous voyez à peu près ce que ça. Vous visualisez à peu près cela. On voit le problème. Il y a une force tellement forte en moi qui fait que c'est foutu, quoi. Je vais jamais y arriver. Je suis dans un autre camp, si vous voulez, d'une certaine façon. Je me dis, c'est pas possible. Je resterai toute ma vie une pomme pourrie. Oh, mais attends, Seigneur, regarde dans la pomme, là, tu vois, il y a un petit bout de pomme, là, qui est super. Tu peux goûter, si tu veux. Non, merci. Hein? Et on a toujours tendance à dire, oui, mais c'est vrai, je suis pourri, mais enfin, j'ai quand même des choses bien en moi. Ouais, c'est vrai. Heureusement, parfois, la pomme n'est pas entièrement pourrie. Hein? Enfin, moi, je ne vous conseille pas de manger et de croquer dans une pomme pourrie, parce que ce n'est pas très agréable. Enfin, si vous ne l'avez jamais fait, c'est bien. Et puis, regardez, il y a quand même des pommes qui sont plus pourries que moi. Hein? Alors, regarde par-ci, par-là. Et puis, vous voyez, les pommes pourries qui sont en train de s'évaluer les unes les autres. Quoi. On dit quand même, ça n'est pas sérieux. Le Seigneur doit certainement rire de cela. Il a dû certainement rire beaucoup de moi. Et puis je dis, oh là là, celui-là, il a une grosse poutre. Hein. Puis moi, j'ai une petite paille. Voilà. Bon, voilà comment on fonctionne. Comment je fonctionne. Et verset 24 de ce chapitre 7, il nous est dit, misérable. Misérable que je suis. Et vous savez que c'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, moi, j'exhorte tous les serviteurs de Dieu et tous les chrétiens à confesser qu'ils sont pécheurs. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il y a des frères qui ont donné des bons messages, pas forcément ici, je parle là, globalement, et puis que ils n'ont jamais confessé, enfin, ou ils le confessent peut-être, mais c'est quand même nécessaire que celui qui est en chair, S-H-C-H-A-I-R, hein, en chair ici, qui parle, confesse qu'il n'est pas meilleur que qui que ce soit. Et l'apôtre Paul nous donne son exemple, il nous demande de l'imiter, et ce qu'il dit, c'est: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps, de cette force de la putréfaction, de la désorganisation. Cette force de la désorganisation nous semble terrible, hein? On le sait. Hein? Là, on pourrait dire aussi l'entropie du monde, de l'univers, augmente. C'est-à-dire, si vous laissez un système... Ça, c'est pour les scientifiques. Hein. Un système qui est bien organisé, vous le laissez comme ça, ben, ce système, il va se désorganiser. Vous n'imaginez pas que ce système va se réorganiser et devenir de plus en plus compliqué. Cette illusion de l'organisation naturelle vers quelque chose de plus compliqué, c'est ce qu'on voit dans certaines théories qui nous ont été inculquées et qui sont entrées dans les mœurs. Les gens croient en la possibilité d'une résurrection naturelle sans Dieu. L'élément élémentaire de matière se développe pour devenir un élément plus compliqué, pour arriver à un moment donné à devenir un truc génial, tout seul. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est pas possible. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui va me délivrer du boulet que je dois traîner? Alors là, pour le boulet, excusez-moi, je suis encore obligé de donner une image, c'est que j'aurais tendance, moi, je ne sais pas pour vous, mais à croire que je suis comme à Cayenne, si vous voulez, avec mon boulet qui fait 20 cm de diamètre, et qui est accroché à mon pied droit, si je suis droitier, enfin bon bref, il m'empêche de partir. Mais en fait, l'équilibre ou la façon dont l'apôtre Paul nous parle de ce corps de mort, c'est pas vraiment un petit boulet de 20 centimètres qui est quand même très lourd. Hein. Ce serait plutôt l'image que j'y verrais plutôt, c'est un boulet de canon, ouais, qui fait bien 20 centimètres de diamètre, hein, et qui est accroché à une petite fourmi. Et puis la fourmi, elle dit, mais moi je vais arriver à m'en sortir tout seul. Je trouve que l'image que l'apôtre Paul nous donne de cette force sur laquelle on doit lutter, c'est plutôt ça. Hein, un boulet avec une fourmi. La fourmi, c'est moi. Le boulet, hein, voilà. L'apôtre Paul nous explique au verset 25. Il nous explique que Jésus-Christ, Dieu, nous a délivré du boulet. Il nous a délivré du boulet. La petite fourmi, elle est libre. Et elle marche selon l'esprit. Parce qu'elle a de nouvelles priorités, de nouvelles affections. Naturellement, elle se tourne vers les choses spirituelles. Et je reprends maintenant mon image des paniers avec cette nouvelle situation. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas que cette expiation que Dieu nous a donnée. C'est également la bonne nouvelle du salut qui est possible par la force que Dieu nous donne. Donc si on met une pomme pourrie dans ce nouveau schéma pour l'Église, on met une pomme pourrie dans un panier de pommes saines, en principe, elle ne contaminera pas le panier. Mais elle finira soit par devenir saine, soit à partir du panier. Je prends 1 Corinthiens chapitre pour étayer ce que je dis, parce que ça paraît incroyable, hein, parce que ce n'est pas vraiment la nature des choses, hein, scientifiquement. Enfin, je veux dire, vous n'allez jamais voir ça dans la nature, quoi, hein. La pomme pourrie va toujours gagner. Dans le domaine spirituel, dans l'Église, ce n'est pas comme ça. Elle ne contaminera pas le panier, elle s'intégrera au panier et deviendra saine dans le temps. Hein, elle va commencer à se sanctifier. Ou alors, elle va dire, non, moi, j'en veux pas, je sors du panier. 1 Corinthiens 14, verset 24, il nous est dit, mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant, prophétise, hein, si tous sont en train de parler de Dieu et de donner un message divin, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont révélés, dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous voyez, dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui sortaient et qui rentraient. Et ceux qui entraient, bien sûr, ça peut paraître méchant de dire qu'une pomme est pourrie, une pomme saine. Hein, excusez-moi pour le schéma, c'est le schéma pour la compréhension. Mais vous savez très bien que nous sommes tous pécheurs et qu'en tant que chrétiens, nous sommes toujours pécheurs, tout comme les gens du monde sont aussi des pécheurs. Mais qu'il y a un principe, et que ce principe de force, c'est celui du Saint-Esprit qui vient nous aider. Alors, je vous dirai un peu comment il nous aide, et vous le savez certainement, hein, bien sûr. Et dans 2 Corinthiens 2, 14 à 16, 2 Corinthiens 2, 14 à 16, il nous est dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Vous avez les notions de panier, hein, si vous voulez. On n'est pas destiné à être des paniers de pommes toutes saines qui n'auront aucun contact avec les pommes pourries. Nous sommes tous ensemble. C'est pour ça que le schéma n'est pas tout à fait correct spirituellement, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Voilà. De même, si on met une pomme saine dans un panier pourri, en principe, d'autres pommes pourries vont devenir saines. C'est contraire à la logique, mais c'est comme ça. C'est un miracle. Et dans Romains, au chapitre 8, verset 37, ça nous est dit, Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les autorités, ni les puissantes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, et en tout cas, en particulier de sa force, de la force qu'il nous donne. » Nous sommes vainqueurs. Hein, au verset 37, il nous est dit, nous sommes vainqueurs. Vous vous souvenez, Thiago, il avait fait une petite anecdote à ce sujet. Hein, Thiago, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que le système de résurrection de Dieu, ce n'est pas simplement la réhabilitation ou la recréation de ce qui était avant, c'est plus. C'est plus que vainqueur. On peut être vainqueur et on peut être plus que vainqueur, c'est-à-dire il y a quelque chose de plus. Une pomme pourrie peut aller une pomme saine peut aller dans un panier de pommes pourries et ne pas être contaminée par les pommes pourries. C'est comme ça. Mais il y a encore quelque chose de plus. C'est que la pomme pourrie devient une pomme saine et elle a un parfum qui est un parfum de pomme. Le plus beau parfum de pomme que l'on ait espéré. Parce que vous avez différentes sortes de pommes, puis vous avez des pommes qui sont plus parfumées que d'autres, et celle-là, elle a un parfum délicieux, extraordinaire. Et ce parfum, il se répand partout. Et il nous est dit, hein, dans Romains, que non seulement l'odeur de vie est là, mais l'odeur de vie, elle a plus que cette odeur de vie, elle donne la vie. C'est-à-dire que la résurrection de Dieu qui travaille en nous fait que notre parfum, ce que nous sommes, spirituellement parlant bien sûr, n'est pas simplement que ça donne du goût ou des situations agréables dans les circonstances que nous rencontrons, mais que naturellement, nous faisons plus que ce parfum. Nous donnons la vie, sans le savoir. Le chrétien fait ça, sans le savoir. Et il vaut mieux qu'il ne le sache pas, parce que sinon, après, il s'enorgueillit, bien sûr. Mais voilà. Le parfum de pomme inégalé, une odeur de vie donnant la vie. Donnant la vie. Une odeur de vie, c'est déjà pas mal. Hein. Mais c'est une odeur de vie qui, en plus, donne la vie. Chapeau. Notre jardin sera, en reprenant l'image qu'avait pris Emmanuel, un peu moins envahi par les mauvaises herbes. Et plus nous nous approcherons, plus nous irons au travail spirituel, plus ce jardin deviendra conforme et semblable à Jésus-Christ. On parlait tout à l'heure, en blaguant, hein, de cette histoire de la grâce et des œuvres, mais on voit ici que par la force toute-puissante de Dieu, la pomme ou le jardin se met à se construire lui-même, à s'auto-construire et à faire le contraire de ce qui est naturel dans la physique fondamentale, dans la logique morale d'aujourd'hui. C'est la résurrection, c'est le principe de la résurrection. La résurrection est en marche. Dans Jacques chapitre 1, il nous est dit, au verset 25, vous connaissez, mais on va le reprendre. Dans Jacques chapitre 1, verset 25, il nous est dit que... c'est 25, non ? Jacques 1, 25. Il faudrait peut-être que je regarde dans Jacques, ça ira mieux. Jacques chapitre 1, verset 25, il nous est dit, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui ne se contente pas de ça, qui aura persévéré, et qui ne se contente pas simplement de persévérer, mais qui, n'étant pas un auditeur oublieux, celui-là se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » C'est-à-dire que la pomme qui est pourrie, qui rentre dans le système de Dieu, elle devient saine, elle donne du parfum, son parfum donne de la vie, et en plus, il s'auto-construit ce système. Il s'auto-construit spirituellement. Ce qui me fait dire qu'un chrétien qui est persécuté, qui est dans sa cellule, qu'on torture, on essaie de lui retirer ce qu'il a dans le cerveau, on n'arrive pas. Hein. Vous savez comment ça marche, hein. Le rock'n'roll, enfin, ou n'importe quelle musique, hein. Je ne veux pas attaquer le rock'n'roll, mais bon, dans certains pays d'oppression, on essaie de laver le cerveau de ces gens-là parce qu'ils sont, malheureusement terribles, ces pauvres chrétiens, parce qu'ils pensent des choses qui n'existent pas. Et on essaye de. Hein. Et le pauvre gars, il n'a même plus de Bible, il n'y a plus rien. Mais s'il n'est pas un auditeur oublieux, c'est ce qu'il nous est dit ici. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous balader tout le temps avec votre Bible. C'est peut-être intéressant quand même, hein, de temps en temps, d'aller le revoir. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous avez quand même votre mémoire et les versets qui vous reviennent. Hein, ne crains rien, car je suis toujours avec toi. Hein, je serai toujours avec toi. Vous vous souvenez de Von Brandt qui disait qu'il n'arrivait même plus à dire notre Père parce qu'il avait la pression était tellement forte qu'il ne se souvenait plus du notre Père. Et il disait notre Père. Seigneur, après je ne sais plus. On s'imagine à quel point la pression doit être forte. Mais il n'était pas un auditeur oublieux. Hein? N'étant pas un auditeur oublieux, le Seigneur met la serve aux commandes, en marche, et le Saint-Esprit nous aide. Tout doucement. On n'a pas l'impression d'être quand même des cadors, hein, des superman ou des superwomen. Women, pardon. Non. La bonne nouvelle, c'est que la résurrection est en marche. La bonne nouvelle, l'information inouïe, elle nous est aussi dit dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, on va le reprendre. Romains chapitre 1, juste à la présentation de Romains. Romains chapitre 1, il nous est dit, au verset 1, non, pas verset 1, pardon, c'est le verset. Bon, attendez. Voilà. L'évangile qui avait été promis auparavant, la bonne nouvelle qui nous avait été promise auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, c'est une bonne nouvelle. C'est un élément journalistique d'une portée cosmique. Et il nous a dit, cette bonne nouvelle, cette info, concerne son fils, né de la postérité de David. Hein? C'est la bonne nouvelle, ça. L'information inouïe, si vous voulez, pour donner le pour mettre dans notre contexte à nous, l'information de premier ordre qui devrait être en permanence à la une de tous les journaux, de tous les plateaux télé, de tous les sites internet, c'est ceci. Elle est relative au Fils de Dieu, né d'un homme connu, qui s'appelle David, physiquement, et déclaré Dieu le Fils de manière puissante par l'Esprit de Dieu. Donc, ça c'est la bonne nouvelle. Nous, on sait que Jésus a expié nos péchés, et la bonne nouvelle ne s'arrête pas à cette expiation des péchés, mais aussi à cette réalité de la force qui est avec nous. La force est avec toi. C'est la force de Dieu. Et la preuve de cela, c'est quoi? Il nous est dit, au milieu du verset 3, il nous est dit, il est déclaré fils de Dieu avec la puissance de l'Esprit de sainteté, et dont on a la preuve par la résurrection d'entre les morts. Donc, la force que nous avons, c'est la résurrection d'entre les morts, comme Jésus. Et qu'est-ce que c'est que la résurrection d'entre les morts? C'est pas la même chose que la résurrection des morts. Il y a une différence dans le terme qui correspond à quelque chose. La résurrection d'entre les morts, c'est pas la résurrection des morts. C'est autre chose. Et on va en prendre un exemple, si vous voulez, dans Luc au chapitre 24, on a le modèle qui est Jésus, et on voit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas ressuscité des morts, il est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Imaginez qu'il y a un handicapé qui meurt, mental, physique, etc. Dieu décide de le ressusciter. On peut le ressusciter. Dieu est tout puissant. Il ressuscite l'handicapé. Il est mort, l'handicapé. Et puis voilà qu'il ressuscite. Et puis il ressuscite l'handicapé. C'est-à-dire que Dieu lui a donné la vie, c'est quelque chose de prodigieux. Mais il est handicapé. Et bien, la résurrection des morts, c'est ça. Et la résurrection d'entre les morts, c'est l'handicapé n'est plus handicapé. Il ressuscite plein de force. Il ressuscite avec puissance. Il ressuscite avec les capacités qu'il aurait pu avoir, qu'il n'a jamais connues et que Dieu lui donne. C'est prodigieux, c'est la résurrection. C'est plus que simplement le fait de rétablir quelque chose qui n'existait plus. Voilà ce que c'est que la résurrection d'entre les morts. Alors on le voit, un exemple, c'est dans Luc au verset 24-36. Jésus est toujours un homme. Luc 24-36 nous dit qu'il est toujours un homme. Mais vous verrez que cet homme est un peu spécial. Tandis qu'il parlait de la sorte, hein, vous savez très bien ce qui se passe. Cléopas et son compagnon de marche reviennent d'Emmaüs, alors qu'ils avaient envie de dormir dans une auberge, probablement. Et ils n'étaient pas prêts à faire le chemin de la nuit, parce que c'est pas évident, hein, la nuit. Il n'y a pas de lampadaire, n'est-ce pas? Et puis donc, ils arrivent à Jérusalem, ils arrivent là, et puis on leur dit, vous savez, que Jésus, il est apparu à Pierre. Ben, il dit, bah oui, bah nous aussi, il nous est apparu. Puis au moment où ils disent ça, verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous, shalom. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Pourtant, Pierre avait déjà vu Jésus. Mais ils n'étaient pas encore. On peut comprendre, hein, on ne va pas quand même se moquer d'eux, hein, parce qu'on sait que ce n'est pas quand même évident. Mais il leur dit, pourquoi vous êtes troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Ça tenait, c'était de la matière. C'était de la matière, donc a priori, il est ressuscité des morts. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, asseyez-vous, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, et il en mangea, il en prit, il en mangea. Et pourtant, il était apparu comme un esprit, c'est-à-dire qu'il avait un corps, mais qu'il n'avait plus les contingences du corps humain. Je dirais normal, mais ce n'est pas tout à fait ça, du corps humain naturel. Il était un corps spirituel, mais avec un corps qu'on peut toucher, tout en étant pas tout à fait le même. Hein. Voilà. Un corps glorifié. Donc c'est ça la résurrection d'entre les morts. C'est non seulement le rétablissement d'une situation qui quelquefois n'avait même pas existé, mais être un handicapé ressuscité, c'est bien, hein, mais c'est quand même mieux d'être un homme qui était mort handicapé et qui ressuscite plein de force. Alors, il est donc Jésus plus que ressuscité des morts, si vous voulez, hein, il est donc ressuscité d'entre les morts. C'est le texte comme ça. Voilà. Il a un corps qui ressemble à un corps comme nous, mais qui est un corps glorifié. Et on le voit dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15, versets 42 à 50. 1 Corinthiens 15, 42 à 50. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible. Donc, la Bible est assez claire là-dessus. Elle montre bien que ce n'est pas le rétablissement d'une chose, d'une réalité qui était perdue par la mort, mais c'est bien l'incorruptibilité. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, premier homme, Adam, il est devenu une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Premier homme tiré de la terre, terrestre. Second homme du ciel. Voilà. Tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc il y a des choses qui sont peut-être difficiles à définir et que j'ai du mal à définir, et qui montrent qu'on est dans une autre perspective. Le corps de Jésus, pour résumer, n'est pas soumis à l'usure du temps. Hein, l'incorruptibilité, c'est l'usure du temps, si on veut. Mais finalement, il n'est plus soumis à ce genre de choses. Plus puissant encore qu'on ne puisse imaginer, tout en étant homme, pour eux, hein, il était homme. C'est-à-dire qu'il est toujours homme ressuscité, mais avec un corps différent. Pour eux, la résurrection était un principe inconcevable, même s'ils avaient déjà vu et entrevu que Jésus était ressuscité, c'était inconcevable. Et on peut comprendre que pour nous aussi, c'est inconcevable. Enfin, que en nous-mêmes, nous, chrétiens, il y ait ce principe de résurrection qui travaille. Alors, j'irai rapidement sur un autre exemple. Jésus guérit un aveugle à un moment donné. Et l'aveugle est guéri, et puis il lui dit, tu vois. Puis il lui dit, ben non, je suis myope, je ne vois pas. Donc on a bien la résurrection des morts. il a été rétabli dans une situation, enfin ses yeux ont été rétablis dans une situation où il est myope, comme moi, là je ne vous vois pas, enfin si j'arrive à vous repérer, mais comme ça, ça va mieux. Eh bien, Dieu va plus loin que ce qu'il était, plus loin que ce rétablissement d'une situation qu'il aurait désirée. Être myope, c'est mieux encore que d'être entièrement aveugle, mais être parfaitement, avec une acuité visuelle parfaite, c'est encore mieux que d'être myope. Eh bien, Dieu fait ça. Il est dans plus que la résurrection. Donc, la résurrection est un principe qui rétablit plus que ce qu'il y avait au départ. C'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Il y en est ainsi de la résurrection des morts. Et au verset 54, il nous est dit, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Voilà, la mort engloutie dans la victoire. Au départ, il y a la création. Puis, le principe de mort qui entre en scène. Mais pas au départ, ensuite. Et j'insiste parce qu'aujourd'hui, il y a certains théologiens qui disent qu'au moment de la création, quand Dieu crée, la mort est déjà présente. Vous avez certainement déjà entendu des théologies, des systèmes comme ça. La mort est déjà présente avant qu'il y ait eu ce fameux problème de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il s'appuie sur les versets 2 à 5 du Genèse 1 en disant « Informé vide, la terre ». Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, et il y avait la Bible. Et ils utilisent ces termes en disant, voyez, il y avait le mal avant. Et donc dans ces versets 2 à 5, il faut être extrêmement prudent. Tohu bohu, ça veut pas dire sans dessus dessous, comme on dirait à notre enfant lorsqu'il doit ranger sa chambre. Hein. C'est le Capharnaüm ou tohu bohu, c'est comme vous voulez. Et non, il faudrait que tu... Non, c'est pas ça. Ce terme veut dire, il n'y a pas de dessous ni de dessus. Il n'y a pas encore d'orientation géométrique. Dieu n'a pas encore fait l'orientation géométrique. L'espace euclidien, herminien, ou tout ce que vous voulez. Bon, bref, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il n'y a pas encore de géométrie. On est encore au début de la création. Donc, tohu bohu, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est l'absence d'isotropie. Voilà, en gros. Hein, voilà, c'est ça. Ténèbres, c'est la même chose. C'est l'absence de lumière. C'est pas négatif en soi, c'est pas les ténèbres là où règne la puissance de Satan, vous voyez, des trucs comme ça. Non, dans ces versets 2 à 5 de Genèse, c'est pas ça. C'est ténèbres dans le sens absence de lumière, parce que la lumière n'est pas encore créée. Le vide, même chose, c'est du vide. Alors on dit, oh, ton texte c'est du vide, hein, ça veut dire c'est négatif ce terme quand on dit ça. Mais quand on dit, là il n'y a rien, il n'y a rien quoi, c'est pas négatif en soi. C'est le début des choses. Donc on ne peut pas utiliser ça théologiquement en disant le mal était là avant la chute. Non. Et d'ailleurs, il s'oublie versets 12 et 18 de Romains chapitre 5. Dans Romains chapitre 5, il nous est dit, et on va le prendre. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue au reste des choses, aux gens, mais également à l'univers entier. Bon, après je ne peux pas aller trop loin et dire si c'est partout dans l'univers, je ne sais rien, mais en tout cas pour notre espace galactique, c'est comme ça, hein, sûrement. Le péché est entré au moment où... c'est quand le péché est entré dans le monde que la mort est entrée. C'est clair. Verset 18, il nous est dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et l'apôtre Paul fait bien la différence, hein, entre les deux forces qui sont en présence, celle de la mort et celle de la résurrection. Donc au départ, il y avait la création sans la mort. Ensuite, le principe de mort est venu. Et encore ensuite, la résurrection est venue. Qui est plus que le rétablissement de la vie de la création, une vie supérieure à celle de la création. Nous l'avons dans 1 Corinthiens 15, 42, le corps semé corruptible qui ressuscite incorruptible. Il aurait pu ressusciter corruptible. C'est d'ailleurs arrivé. Quand Lazare est ressuscité des morts, c'était quelque chose d'extraordinaire déjà. C'est pas... Mais Lazare va mourir après. Il est mort après. Il a encore eu un seuil de vie comme Ézéchias, et au lieu de mourir, il a encore vécu, mais après il est mort. Jésus, lui, nous donne la promesse d'une vie incorruptible que nous avons déjà en nous. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Elle ne s'arrête pas à l'expiation de mes péchés, mais elle va bien plus loin que ça. Elle me dit que je ne suis plus soumis à la loi de la mort. Pour mon jardin, Dieu me donne la force de l'entretenir et vaincre les pissenlits spirituels. Seulement, il faut que je le veuille, que je le désire, pour que Dieu ne s'impose pas à moi, parce qu'il ne veut pas s'imposer. Il ne s'imposera jamais. Il attend poliment que je dise oui. Veux-tu lui dire oui? Alors il te donnera la force. Le grand principe de la résurrection pour ton jardin secret. Luc 24, 49. La résurrection est en marche. Et c'est arrivé 50 jours après la plus grande Pâque de tous les temps, celle de la mort expiatoire de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et donc la mort. Dans 2 Pierre 1, verset 1, nous avons tous la même foi, il nous est dit. Regardez 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. L'apôtre Pierre dit pas « Moi, je suis le super pape, hein, je suis le premier de toute l'Église, etc. » Il dit pas ça. Il dit... la deuxième épître de Pierre, pardon, il dit au verset 1, Simon Pierre, hein, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est-à-dire, nous avons tous le même prix, la foi du même prix. Nous n'avons pas de prérogative à nous présenter comme étant inférieurs ou supérieurs. Nous avons la foi qui a été donnée à Pierre et qui a été donnée à nous. Nous avons tous la même foi. Il n'y a pas certains qui en ont plus que d'autres. Il n'y a pas certains qui ont le Saint-Esprit plus que d'autres. La foi est donnée. Voilà. Au verset 3, sa divine puissance, le Saint-Esprit, hein, l'esprit, la force, si vous voulez, on peut donner d'autres termes à tout ça. Mais sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire, par ce qu'il était, par sa beauté. Voilà. Verset 4, il nous dit, ça nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous savez, quand même, vous pouvez faire croire, vous pouvez faire confiance à Jésus, parce que quand même, c'est pas rien, Jésus. L'homme ressuscité. Il nous assure, verset 4, de sa part, c'est une assurance, quoi, ou, bon, multirisque, hein, bon, des plus grandes et des plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Premier point, participants de la nature divine. Et après, parce que, bon, on dit, allez, je suis participant de la nature divine, ça nous fait du bien. Participant à la nature divine. Mais il nous est dit aussi en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption. Donc, la possibilité de fuir la pomme pourrie, si vous voulez. On a la force. On a la capacité de résister à la corruption du monde. On a la force. Alors, on met du temps pour y arriver. Ça, je suis d'accord, je peux vous le confesser. Mais on y arrive petit à petit, avec Dieu, avec sa divine puissance. Je vous donne un exemple en conclusion. J'ai discuté avec un ami, enfin, oui, quelqu'un, et récemment qui me disait, tu sais, Étienne, moi, j'ai du mal à pardonner. Ah, c'est curieux, Michael nous a parlé d'une histoire de pardon, ben, j'avais justement à cœur d'en parler aussi, moi. J'ai du mal à pardonner. Et à votre avis, est-ce que c'est positif de dire cela? Est-ce que c'est négatif ou positif d'exprimer ce genre de choses? Ben, moi, je dirais que c'est positif. Je lui ai répondu, tu sais, je vois que tu as l'esprit de pardon. tu as l'esprit de pardon. La preuve, c'est que tu es gêné dans ton mur. Tu sais que c'est le bien, c'est le pardon. Tu dis, je suis gêné, j'arrive pas à pardonner. Ça prouve que tu restes chrétien et que la divine puissance de Dieu est en train de mettre en lumière ce désir de pardon que tu as en toi et que tu as du mal à concrétiser. Alors persévère. La résurrection est en marche en toi. Ça marchera. Alors, frères et sœurs, regardons la corruption non pas comme un problème insoluble, même si parfois on a un boulet, il est à côté de nous, mais Dieu a coupé l'anneau, là, un ferraille qui nous tenait à notre boulet. Après, nous, on peut rester autour du boulet si on veut, hein, c'est pas notre problème. C'est pas, je veux dire, c'est pas notre problème. Si, c'est peut-être justement notre problème, mais je veux dire, il nous faut saisir par la foi que nous avons une force en nous qui nous permet, de manière ténue, sans que nous puissions nous enorgueillir, comprendre de plus en plus certaines choses. Tu sais, Étienne, j'ai du mal à pardonner. Bah, tu sais, ça veut dire une chose, c'est que l'esprit travaille en toi. Ce n'est plus qu'une question de temps. La corruption, elle va disparaître. Elle est encore là, mais elle sera bientôt finie. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Hébreux 8. 11. Je crois que je me suis trompé. Hébreux 8, 11, 13. Si, si, c'est ça. 11. Personne n'enseignera plus son frère, son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur, parce que moi j'en connais mieux, plus un rayon que toi, hein, entre nous. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant cela, il dit, Dieu, qu'il y a une alliance nouvelle. Verset 13. Il a déclaré l'ancienne la première. La première, il l'a déclarée ancienne, et ce qui est ancien va bientôt disparaître. Avec la mort, avec ce système, ça va disparaître. Alors, quand vous lisez Notre Père, Richard, enfin, comme vous, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme elle est faite au ciel, sur terre. Tu nous donnes la nourriture chaque jour, et tu nous pardonnes aussi, parce que nous avons la capacité, la puissance de pardon, l'esprit de pardon. Parce que c'est toi qu'appartient le règne, la gloire, jusqu'au siècle des siècles. On voit que dans le Notre Père, il y a déjà c'est logique. On sent qu'il y a le principe de résurrection qui est là-dedans. Hein? Vous voyez dans le Notre Père la résurrection en marche. Alors, je vous exhorte, mes frères et sœurs, je vous veux encourager à ça, à dire qu'il y a toujours cette force en nous. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que la résurrection n'a pas existé. Il y a des gens qui essayent de dire que l'expiation n'est pas nécessaire, que la culpabilité n'est pas nécessaire. Toutes ces choses qui sont des éclairages spirituels que Dieu donne même aux gens du monde. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des philosophies ou des techniques pour nous écarter de cette réalité. Mais moi je pense que si nous sommes conscients de cette force de résurrection que nous avons en nous, que nous ne voyons pas parce que nous en déterminons presque même pas la présence, mais qui existe par des petits indices du genre, tu sais, j'ai du mal à pardonner, oh, tu sais, je devrais quand même lire ma Bible plus souvent. Bah, c'est pas le fait de le lire qui est important, c'est que tu ne sois pas un auditeur oublieux. Hein? Voilà. Ces choses qui sont des petits éclairages qui nous disent, ah tiens, tu vois. Je me souviens de mon fils, il me dit, papa, tu sais, dans la Bible, il y a ceci. Ah, moi, je lui dis, tiens, tu fais des études bibliques? Ah, bah oui, ça m'arrive de faire des études bibliques. Ah bon? Il n'était pas converti. Et comment ça se fait? Il y a quelque chose qui... La puissance de Dieu est là, à l'œuvre. Et à un moment donné, la personne se convertit. La personne se tourne vers Dieu. Et elle continue son chemin. Je vous exhorte à continuer votre chemin, même si parfois on a l'impression que pomme pourrie, ça existe beaucoup chez nous, chez moi en tout cas. Non. Le principe sera un jour tué dans l'œuf. Le principe de désorganisation et de mort va partir de la création de Dieu. Il a été introduit après Satan et son intervention auprès de nos premiers parents, et il sera finalement détruit. Nous le savons et je vous exhorte à ne pas l'oublier. Nous allons prier. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de paix, le Dieu de grâce, et tu es aussi le Dieu de résurrection. Et cette résurrection n'est pas pour nous un vain mot, elle est une réalité dans notre cœur. Nous savons que tu as mis ton Saint-Esprit en nous, cette force qui nous permet d'être certains, et nous en sommes persuadés, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, eh bien c'est lui qui la rendra parfaite pour le jour de Christ, en nous éclairant par la puissance que tu as mis en nous, en nous éclairant sur les messages que tu nous donnes et les clins d'œil dont tu nous fais cadeau dans la vie que nous menons chaque jour. Seigneur, bénis-nous durant cette journée et aussi dans toute cette semaine, dans toutes les années qui suivent, et pour que nous ayons cette certitude que tu n'es pas celui qui va nous lâcher. Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen.